se doit de penser à elle. On se doit de penser à elle. Dans les bras d'une femme chassée, a-t-on pensé à la seconde d'intimité de celui dont la tête est fêlée? On se doit de penser à elle. On se doit de penser à elle. Ramasse grotte sont de belles litotes, assainir les caniveaux, apparaît-elle des travaux, une mission d'humanité. On se doit de penser à elle.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, il est 19h03 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, on va vous parler à l'international de la question de l'extrême droite au pouvoir qui arrive en Italie. On va vous parler aussi de Microsoft qui rachète GitHub, et on va vous parler de la crise financière qui vient. On va vous faire encore un petit point sur la crise libyenne. Ça sera la suite de la semaine dernière, c'est ça ?
Ouais.
Et on va vous parler de la Croatie où la police tire sur les migrants. On va vous parler ensuite de l'expulsion en catimini de 4 Afghans au national. Ensuite, on va vous parler de la numéro 2 de la CFDT qui rejoint la CDC. Et c'est encore une trahison. On va vous parler de Gaël Quirante, de nouveau convoqué, le fameux postier. Et on va vous parler au local de Vaux-en-Velin, de l'art de la révolte de Vaux-en-Velin, ouais. Et avec un petit retour sur les émeutes de ces derniers jours. Et puis on vous fera un petit point sur la situation des mineurs suite à l'expulsion de la cabane qui s'est passée cette semaine.
Alors, commençons donc à l'international par l'Italie. On en a déjà parlé... Allez, disons deux, voire trois fois ces deux derniers mois, puisque depuis mars, eh bien, il y a eu des élections législatives et on le savait, les partis qui sont sortis en tête de ces élections sont deux partis d'extrême droite. Mais il a fallu un certain temps avant qu'il y ait un gouvernement qui se forme. Alors donc, c'est officiel, aujourd'hui, l'extrême droite est au pouvoir en Italie, ça y est, le gouvernement est formé. Donc représenté par deux partis, d'un côté le mouvement 5 étoiles, de l'autre la Ligue du Nord. Alors la Ligue du Nord, c'est un parti d'extrême droite particulièrement dur qui s'est allié pour ces élections à Fratelli d'Italia, qui est un parti ouvertement néofasciste, organisé à sa base en mode ligue fasciste, année 20 revival. Mouvement 5 étoiles, alors je vais traîner un peu plus dessus puisque c'est un parti soi-disant inclassable. Encore aujourd'hui, Le Monde et la plupart des médias de masse disent que c'est un parti inclassable. Eh bien, c'est pas un parti inclassable, c'est un parti d'extrême droite, rouge-brun. Je vais vous dire pourquoi. C'est un parti qui a été créé par l'humoriste Beppe Grillo en 2009. Et qui lutte officiellement pour des enjeux liés à l'eau, l'environnement, les transports, le développement et l'énergie, et particulièrement porté sur la lutte anti-corruption, puisque l'Italie est un pays très corrompu, on le sait. Voilà pour la façade. En parallèle, Beppe Grillo n'a pas hésité à soutenir en 2013 le mouvement néofasciste Casa Pound, qui ouvre des squats réservés uniquement aux Italiens. La ligne du mouvement 5 étoiles sur la question des migrations, c'est l'interdiction du droit du sol pour les enfants d'immigrés, l'instauration de vols low cost depuis Lampedusa pour expulser plus facilement les migrants, accélérer les procédures de demande d'asile pour expulser plus vite. C'est donc bien un parti qui est sur une ligne d'extrême droite. Et au Parlement européen, par exemple, hein, le parti n'a pas hésité à s'allier avec l'UKIP de Nigel Farage, qui est un parti ouvertement d'extrême droite, assumé en Grande-Bretagne. Alors en parallèle, effectivement, le mouvement 5 étoiles met en avant la gratuité des soins, la gratuité d'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, à l'énergie, une baisse des loyers, un revenu de citoyenneté à 780 euros pour les Italiens, bien sûr, et le retrait de la réforme des retraites, hein, qui allongeait la durée des cotisations. Alors, aujourd'hui, c'est Luigi Di Maio qui est le chef de file du mouvement 5 étoiles et qui est d'ailleurs sur une ligne qui est un peu plus dure que celle de Beppe Grillo, le chef de file historique. Alors, ces grands gagnants de ces élections de mars, hein, ont bataillé ferme pour mettre en place une coalition, d'abord refusée par Mattarella, le président de la République italienne qui a la possibilité de refuser un gouvernement. Mais après de nombreuses accusations de coup de force institutionnel, eh bien, ce président de la République, il a fini par céder. Et c'est donc Giuseppe Conte, le premier ministre officiel de l'Italie, qui est un juriste novice en politique, qui va être chargé d'appliquer très clairement les politiques ultra-sécuritaires des deux partis, qui d'ailleurs se positionnent en force dans les différents ministères. Donc Giuseppe Conte, c'est un pantin aux mains du mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord. Les deux chefs de file, donc Luigi Di Maio, est à la tête du grand ministère du Travail et du Développement économique et est également nommé vice-premier ministre. Et le chef de file de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, est lui nommé, et ça fait mal, ministre de l'Intérieur et également vice-premier ministre. C'est-à-dire que donc, ces deux chefs de file de ces deux partis vainqueurs sont vice-premier ministre, c'est donc bien eux qui vont gouverner l'Italie. Matteo Salvini a déjà prévenu samedi soir que, je cite en français bien sûr, le bon temps pour les clandestins est fini, préparez-vous à faire vos valises et les États doivent faire leur travail et refuser que des vice-passeurs accostent sur les côtes italiennes. Et ces vice-passeurs, il fait référence aux ONG, hein, aux organisations non gouvernementales qui, effectivement, eh bien, s'occupent de faire arriver en vie les migrants et de ne pas les laisser morts en mer Méditerranée. Alors Salvini veut également multiplier les CRA italiens. Quant à Di Maio, il a lui aussi surenchéri sur les ONG en les traitant de taxis de la mer. Alors, Salvini a déjà prévenu qu'il entamera un tour de vis sécuritaire, et pas uniquement sur les migrants. Donc on a une pensée émue pour nos camarades italiens qui vont se prendre la répression en pleine tronche. On a une pensée encore plus émue envers tous les migrants dont le sort va faire qu'empirer, sachant qu'en Italie, on le sait, hein, elle était réputée pour des faits de maltraitance, de mise au travail forcée, etc. Et tiens, pour finir sur une petite touche joyeuse. Samedi soir, dans les environs de Gioia Tauro, en Calabre, un migrant malien a été tué d'une balle dans la tête. Alors, selon les premières informations de la presse locale, il aurait été pris en flagrant délit de vol d'aluminium et abattu tranquille par des passants. Jusque-là, tout allait bien.
Pour de l'aluminium.
Mais au fil des heures, une autre réalité est apparue. En fait, on connaît son nom, c'est Soumaïla Sacco. Un homme de 29 ans qui était en situation régulière, un militant syndicaliste noir qui consacrait son énergie à défendre les clandestins qui travaillent sans aucun droit social dans les champs des environs. Dimanche, une partie du camp de tente où il vivait a été incendiée. En réponse, les ouvriers agricoles de la région ont annoncé un mouvement de grève qui commence dès aujourd'hui pour dénoncer la situation. Affaire à suivre, mais ça pue grave, grave en Italie.
Ouais. Et tout de suite, en transition, on parlait juste ici de la crise transition politique qui a eu lieu aussi ces dernières semaines en Italie et la crise tout court en Italie. Et justement, cette crise de transition politique dont on vient de parler, elle est symptomatique d'un problème qui est plus profond à l'échelle européenne et mondiale. C'est que les élites dirigeantes sont complètement apeurées par la perspective d'une nouvelle crise financière et économique d'ampleur. Aujourd'hui, y a de nombreux indicateurs qui sont au rouge et de l'aveu même du financier, je le cite George Soros, il a dit « Ce n'est plus une figure de style que de dire que l'Europe court un danger existentiel. C'est la dure réalité, nous dirigeons vers une autre crise financière majeure. » Donc les difficultés du M5S et de la Ligue du Nord, toutes relatives, mais à former un gouvernement dernièrement, elles ne viennent en rien de quelconque désaccord politique entre eux, mais de la volonté de toute la classe politique européenne de ménager les marchés financiers. Le président de la République, donc Sergio Mattarella, il avait décidé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, d'invalider le gouvernement qui était proposé à ce moment-là, notamment à cause de Paolo Savona, qui était ministre des Finances dans ce gouvernement, et eurosceptique. Il avait alors dit à la presse que cette nomination risquait d'alarmer les marchés et les investisseurs italiens et étrangers. Donc, redoutant une issue imprévisible à la crise politique italienne, à ce moment-là, les milieux financiers avaient réagi au quart de tour. Ils avaient commencé à liquider tout ce qui touchait de près ou de loin l'Italie. En deux jours, les taux d'intérêt de la dette italienne, donc sur les marchés, sur deux ans, ils avaient augmenté de près de 2% pour atteindre 2,73%. Donc c'est vraiment énorme. Leur plus haut niveau d'ailleurs depuis 2013, au plus fort de la crise de l'euro. D'ailleurs, certains investisseurs avaient commencé à reparler, à regarder de près ce qu'on appelle donc les credit default swaps, les trappes à crédit à défaut de crédit. Donc ces produits d'assurance qui sont devenus un peu des instruments de spéculation et qui avaient permis aux financiers de s'enrichir très rapidement pendant la crise financière. En gros, spéculer donc sur la faillite des créanciers, etc. Donc désormais, la situation, elle semble s'être partiellement calmée ces derniers jours au niveau des marchés financiers. On remarquera d'ailleurs avec plaisir que l'Union européenne et ses institutions se préoccupent beaucoup plus du maintien de ces dogmes économiques et de la toute-puissance donc, de ces marchés financiers, quand même gain de cause, que de l'arrivée de ce gouvernement d'extrême droite au pouvoir. D'ailleurs, comme on a pu le voir par le passé, dans la différence de traitement par la Commission européenne et les grands dirigeants européens, entre par exemple la Pologne et la Grèce. La Grèce, elle, avait été enfoncée six pieds sous terre il y a quelques années lors du référendum pour remettre en cause les mémorandums sur la dette, etc. Alors que la Pologne, elle, a été simplement réprimandée ces derniers temps pour toutes les infractions aux libertés fondamentales, la remise en cause de la liberté de la presse, du droit à l'avortement, etc. Donc c'est bien aussi la preuve concrète que le fascisme n'est en rien un ennemi du grand capital et que le grand capital s'en accommode très bien. Bref, pour revenir à la situation du système économique et financier mondial, donc elle est relativement préoccupante. Depuis la crise des subprimes en 2008, suivie de celle de la dette qui avait eu lieu, le système financier donc est sous perfusion des banques centrales. Déjà en 2008, on a pu le voir. Au cours de l'hiver 2009, les pays riches, ils avaient mobilisé près de 50% de leur produit intérieur brut, donc de leur richesse annuelle, pour tenter de ranimer le système financier. Donc vous en souvenez tous, hein, on avait payé massivement pour renflouer les banques, donc recapitalisation ou prêt exceptionnel aux banques en difficulté, émission de liquidités supplémentaires pour relancer le crédit, rachat des fameux actifs toxiques comme les subprimes qui mettaient en danger tous les canaux budgétaires et monétaires. Enfin, on a ouvert tous les canaux plutôt budgétaires et monétaires à plein débit pour restaurer donc un peu de solidité au système financier. Et depuis de ce temps-là, les banques centrales maintiennent artificiellement bas les taux d'intérêt, mais vraiment très très bas, ce qui permet aux acteurs financiers, comme les banques commerciales, Société Générale, BNP, tout ça, d'accéder facilement à des liquidités. Donc d'une certaine manière, cela permet de maintenir un peu en état de mort-vivant aussi l'économie réelle. Et donc les marchés, depuis plusieurs années, ils croulent sous les liquidités. Les grands argentiers, donc, que sont les banques centrales, ont donc créé des quantités massives de monnaie. Hein. Par exemple, elles ont triplé en fait, leur bilan comptable cumulé. Donc, bon, c'est des termes un peu obscurs, mais pour faire simple, ce bilan il est passé de 6 000 milliards de dollars en 2008 à près de 17 500 milliards en 2016. C'est-à-dire la quantité d'argent qui a été émis sur les marchés financiers. À tel point que l'endettement public, il est devenu gratuit un temps, ces derniers temps, quand même des fois, il permettait carrément de gagner de l'argent pour les États. En décembre 2016, par exemple, le taux d'intérêt exigé par les investisseurs pour acquérir de la dette française sur 5 ans, il était négatif, c'est-à-dire autour de 0,28%. C'est-à-dire que l'État français, s'il s'endettait, en fait, à terme, il gagnait de l'argent. Et aujourd'hui, à 10 ans, il s'établissait même à 0,65%, donc de quoi faire des bonnes économies. Donc l'aubaine de ces taux d'intérêt au plancher super bas n'a pas échappé non plus aux entreprises, comme s'y attendaient les banquiers, ce que voulaient. Elles sont massivement endettées auprès des banques et encore plus auprès des marchés. Mais contrairement à ce qu'ils croyaient, ça n'a pas du tout relancé l'économie réelle.
Comme est-ce par qu'ils croyaient vraiment que ça allait relancer l'économie réelle alors que ce genre de subterfuge...
Franchement, moi je pense que oui, ils y croyaient. Enfin, du moins, ils se voilent la face.
Pour leurs intérêts, quoi.
Pour leurs intérêts, mais bon. Et de toute façon, il aurait fallu une relance budgétaire parallèlement. Mais bref, c'est une autre question. Et donc, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que l'activité économique étant stagnante, hein, la demande et les perspectives de remplir, de vente sont vachement faibles pour les entreprises. Donc, les acteurs financiers, ils se gardent bien d'investir dans l'économie réelle. Le taux d'investissement, d'ailleurs, a diminué de 2 à 3 points de PIB dans les principales économies par rapport à la période d'avant 2007.
Hein. Mais c'est probablement parce que l'emploi coûte trop cher.
Notamment, oui. Et du coup, ils préfèrent s'assurer des bons taux de profit, mais en spéculant sur différents titres en bourse, en immobilier, nouvelles technologies, les prêts à risque, les fonds de pension. Et on a plusieurs nouvelles bulles financières qui sont en train de se former. D'autre part, les entreprises en ont profité pour verser de plus grosses dividendes à leurs actionnaires. On a pu le voir ces derniers temps avec les dividendes records au CAC 40. Et aussi pour racheter massivement des actions, ce qui est un moyen pour elles en fait, de réduire le nombre d'actions et donc de gagner encore plus de fric parce que les actions coûtent encore plus cher. Aux États-Unis, le constat il est sans ambiguïté. Depuis 2014, les rachats d'actions dépassent 500 milliards de dollars par an et les dividendes 600 milliards, donc renouant avec des niveaux records qu'on a pu voir au début des années 2000.
Ça sent la crise, quoi.
Ouais, ça sent, ouais. Et on a aussi donc une forme de détournement massif de fonds à grande échelle, quoi. Et d'ailleurs, les grandes sociétés, elles en ont profité de ces liquidités mises à leur disposition pour multiplier les opérations donc de fusion-acquisition, c'est-à-dire de rachat d'autres entreprises, donc grossir encore plus et devenir des espèces de forteresses économiques qui peuvent remettre du coup plus facilement en cause le droit du travail, les législations, le droit des consommateurs et peser sur l'adoption de nouvelles lois et de nouvelles règles. Hein. On a vu sur, par exemple, on l'a vu ces derniers temps avec ce gouvernement de toute façon, et au niveau européen, avec la législation qui a baissé. Bon, bref, je parle très longtemps, excusez-moi pour ça. Et j'abrège. Et désormais, donc, la fête sur les marchés financiers, elle semble finie. Hein. Les banques centrales, elles doivent commencer à renoncer à leur politique monétaire trop généreuse depuis trop d'années. Et la perspective d'un effondrement des économies nationales se profile. On a déjà eu plusieurs coups de semonce ces derniers temps. En février, avec la chute des cours sur Wall Street. Début mai, avec l'effondrement du peso en Argentine. Mais comme pendant la crise financière de 2008, tout risque de se concentrer à nouveau sur l'Europe, qui est considérée comme un maillon faible du système financier international. Et là, l'Italie un des plus gros maillons faibles. Et donc, c'est l'échec de la tentative des acteurs politiques et financiers mondiaux à maintenir le système néolibéral qui a régné depuis les années 80 qui se profile. Et désormais, c'est la porte aussi qui va s'ouvrir progressivement à un autoritarisme nationaliste qui est prêt à remettre, lui, par contre, partiellement du moins, en cause l'austérité et le libre-échange.
Alors, on va continuer dans la finance, mais on va faire ça un petit peu plus court pour une actualité qui est tombée aujourd'hui. Alors, le titre, très simplement, c'est « Microsoft rachète GitHub ». Alors, j'imagine que ça ne veut pas dire grand-chose pour à peu près tout le monde.
Ouais.
C'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement très, 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 très problématique, en fait, sur beaucoup de choses. Donc, comme je disais, à peu près personne ne voit ce qu'est GitHub, mais en fait, c'est un service extrêmement peu connu du grand public, mais majeur, en fait, pour les professionnels, et qui fait que c'est un des sites Internet les plus visités au monde et qui est un outil majeur du développement de l'informatique mondiale. Donc, ce site, en fait, et cet ensemble de sites permet de stocker, en fait, en ligne des lignes de code, d'applications, de sites web, d'à peu près toute forme de technologie, en fait, web et informatique qui puisse exister, et qui repose sur le fait que la grande majorité des projets qui sont posés dessus, en fait, sont posés totalement gratuitement et en libre, et que tout un chacun peut venir se réapproprier ce qui est dessus et développer de nouvelles choses, corriger et créer ce qu'on appelle une fork, une nouvelle branche en fait du projet qui permet le développement à l'heure actuelle à une très grande rapidité, une très grande efficacité surtout de beaucoup de projets en informatique. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de grandes entreprises mondiales qui utilisent, même comme Google, Facebook et compagnie, mais c'est aussi plus de 27 millions de développeurs à travers le monde et plus de 80 millions de projets qui sont en cours actuels de développement. Donc la prise de contrôle en fait de cette plateforme qui est la première plateforme du développement du logiciel libre dans le monde pose de grosses problématiques parce qu'elle a été prise en contrôle par Microsoft qui est la société une des plus connues pour verrouiller à peu près tout ce qui existe sur le web malgré de pseudo tentatives d'ouverture ces dernières années. Donc ce rachat laisse à craindre en fait de gros problèmes sur le développement de l'internet et de l'informatique libre à travers le monde, à travers notamment la reprise en contrôle, la mise en place de systèmes encore plus payant à des tarifs totalement prohibitifs et qui fait que qui est notamment aussi un contrôle bien plus accru des types de projets qui pourront exister sur ces plateformes. Même si à l'heure actuelle, en fait, Microsoft dit qu'il ne fera rien et tout le monde sera libre, on connaît ce genre de discours, on sait très bien que dans quelques années, les tarifs vont fortement augmenter et que, hélas, ça risque d'être pas la même chose. Donc, on souhaite, en attendant, on espère en fait que la plupart des développeurs et des gens qui font du web ou n'importe quoi dans l'informatique vont continuer à se tourner vers GitLab ou d'autres plateformes basées entièrement encore sur le libre et transformer cette nouvelle branche d'appieuvre de Microsoft en une coquille vide qui leur a quand même coûté la bagatelle de 7,5 milliards de dollars.
Okay. Et d'accord, maintenant on va continuer sur la crise libyenne.
C'est soirée crise hein, ce soir. La crise de partout. Après, je vous parle de la crise migratoire.
Ah ouais ? Ah, peut-être ça vient.
Moi, la crise à la CFDT. Attention.
Ok, comme vous savez, comme c'était prévu précédemment, la réunion sur la crise libyenne a été tenue ce 29 mai 2018 à Paris. Une réunion qui a rassemblé 4 hauts responsables libyens, dont le maréchal Khalifa Haftar, et avec la participation de 20 pays, dont 4 chefs d'État africains, ainsi que 4 organisations internationales. Tous les antagonistes libyens présents à cette conférence sont engagés à respecter la tenue des élections présidentielles le 10 décembre 2018 en Libye. Sauf que personne d'entre eux n'a voulu accepter de signer cet accord. C'est pourquoi on peut se demander si cette feuille de route pour une sortie de crise était réaliste. Certes, une opération audacieuse, mais risquée, ont estimé certains observateurs selon RFI. Pour le moment, l'Élysée se félicite d'avoir réuni des personnalités antagonistes au niveau libyen, mais aussi au niveau international. Pour l'heure, les antagonistes souhaitent d'abord soumettre cet accord à eux, à ceux qui le représentent en Libye. Mais n'est-elle pas légitime de se poser la question pourquoi ce choix de protagoniste ? N'est-ce pas un signe d'un profond manque de confiance ? Non, nous dit le président Macron, il s'agit juste de bon sens pragmatique, car selon lui, sont présents à cette réunion des présidents d'institutions qui ne se reconnaissent pas mutuellement, donc il faut d'abord se rencontrer et avoir une approbation formelle qui les engage à respecter les calendriers du 10 décembre 2018. Et pourtant, certains chercheurs pensent que les protagonistes n'ont pas signé cet accord parce qu'il n'y a pas deux accords, tout simplement. Selon Jean Mosseron, directeur à l'Institut de Recherche et Développement, ils ne veulent pas, quand il dit « il parle des protagonistes, il dit que les protagonistes ne veulent pas mettre leur signature en bas du document qui risquerait de les affaiblir au niveau interne. Il faut souligner de passage des pays comme l'Italie, la Grande-Bretagne ou les États-Unis qui bénéficient d'une grande influence en Libye ont montré leur réticence à l'initiative française. Aujourd'hui, la division règne sur place. Il y a des milices soutenues par des forces politiques régionales fragmentées s'opposent des uns aux deux autres. La Libye souffre trop d'ingérence des puissances étrangères. Des pays comme Arabie Saoudite, les Émirats ou l'Égypte, qui soutient le maréchal calife Haftar, ne semble pas prêt de renoncer à leur soutenir. Et d'autres pays, de l'autre côté, vous avez le Qatar, la Turquie, qui soutient aussi les milices islamistes. Chaque axe, il faut dire, propose et offre en Libye argent, armes, ainsi que du soutien politique et diplomatique. Il faut souligner aussi, à la veille de cette conférence de l'Elysée, 13 groupes armés de l'Ouest libyen avaient diffusé un communiqué dénonçant la rencontre de Paris. Pour ces milices, il appelle à un dialogue inter-libyen, loin de toute ingérence extérieure. Pour ces milices, Paris n'est pas neutre. Elles considèrent que Paris comme l'allié d'une partie libyenne. Certaines, il y a des solutions pour certains. Ils disent que tant qu'il n'y aura pas un accord politique au niveau interne, toute initiative sera vouée à l'échec. Mais par contre, d'autres estiment que la communauté internationale pourrait au fond inciter beaucoup plus fortement ces milices à se mettre d'accord. Par exemple, ils pourraient brandir une menace de l'embargo sur le pétrole libyen. Il faut juste rappeler que par le passé, il y a eu un embargo sous le régime Kadhafi, mais cela n'a pas changé grand-chose dans la crise libyenne d'alors. Mmh. Maintenant, on verra avec.
C'est surtout ce qu'on rappelle jamais assez, c'est qu'en fait la Libye c'est une sorte de confédération intertribale.
Ouais.
Et sauf que des tribus entre elles, pour pouvoir les réunir dans une sorte de pays démocratique à l'occidental, bah c'est pas comme ça que ça se fait. Réunissant juste autour d'une table, quoi.
Ouais, parce que là ceux qui sont venus à Paris, on signale, je viens de dire, ces quatre ces quatre représentants. Donc il faut pas oublier qu'il y a aussi 13 groupes armés libyennes qui sont sur place.
Oui, il y a un jingle, c'est ça?
Ouais,
voilà.
Qui s'en alla pour trouver l'Eldorado. Comme autrefois, princes et rois s'en allaient pour les croisades. Il a laissé tout son passé pour trouver l'Eldorado. Crinière au vent, le mort au temps. Enfin le cavalcade. Que cherchait-il vers cet exil là-bas?
Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des noirs et des arabes. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne.
Mais oui, c'est clair.
Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. parce qu'il n'a pas peur de la mort.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. 51 millions de réfugiés dans le monde, on en est là. C'est un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils fuient la guerre ou la misère, ils sont prêts à tout pour venir chez nous.
Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarlatata.
Pour comprendre, nous nous sommes intéressés à l'un des naufrages les plus meurtriers jamais survenus en Méditerranée. C'était début septembre, ils étaient 450 à bord.
Et un spectacle continue.
Crise des migrants, le retour des frontières, c'est le titre de cette émission. L'Europe de l'espace Schengen n'est plus.
Depuis quelques années, on a une espèce d'abus de langage qui a introduit des amalgames. Au jour d'aujourd'hui, toute personne typée avec un air d'étranger est considérée comme immigrée. Tous les étrangers, en tout cas toutes les personnes d'origine étrangère qu'on peut rencontrer en Europe ne sont pas forcément des immigrés. Donc...
Alors, va-t-il falloir de nouveau s'habituer au contrôle douanier ?
Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper.
Ça va, t'énerve pas ? Je m'en vais ? Fasciste.
Ce qui était intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voyait des migrants qui n'étaient pas au courant, au fond, que les frontières étaient fermées.
On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakaroua gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester.
Ici, il y a au moins 7000 migrants sur le campement de la Lande. Cette situation n'est pas acceptable. Dès lors, nos objectifs sont clairs. Garantir la sécurité des Calaisiens.
C'est cela, oui.
Maintenir l'ordre public.
C'est cela, oui.
Et assurer aux migrants, aux réfugiés, des conditions dignes.
C'est cela, oui.
Parce que nous sommes la France. Enfin, nous devons démanteler complètement, définitivement, le campement de la Lande.
Il est idiot, cet agent.
Ah non ! Mais c'est le président de la République ! Alors attention, il faut le nettoyer !
Je ne veux pas remuer les mauvais souvenirs, mais ministère de l'immigration et de l'identité nationale, on a fait des réfugiés presque des coupables de droit commun.
Nous ne voyons pas d'autres explications.
Salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien.
Alors, je redécouvre avec joie ce jingle confectionné avec amour par une de nos
camarades.
De nos camarades.
Jingle qui fait 4 minutes.
Oui, c'est un gros, gros jingle. Hein. Donc voilà, un peu à cheval sur l'actualité internationale et nationale. On se demandait un peu, à force d'égrener chaque semaine les drames de l'exil, c'est quoi ce bordel en ce moment avec les exilés ? Alors, Mimé, une fillette kurde, on en avait parlé ici, a été assassinée par la police belge qui poursuivait une camionnette transportant des exilés. À Briançon, 3 cadavres ont été découverts ces dernières semaines. Mercredi dernier, ce sont les keufs croates qui ont cette fois-ci tiré sur des migrants, blessant 2 enfants par balle. Ce week-end encore, au moins 47 personnes ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée. Alors, au-delà de ces morts, on note un durcissement de la politique migratoire. Les États bafouent sans état d'âme les lois qu'ils ont eux-mêmes créées. Par exemple, la semaine dernière, en France, 4 Irakiens ont été expulsés en catimini vers la Finlande où ils étaient dublinés, sans avoir le temps de passer devant le juge administratif. Juge qui finalement décidera, en leur absence, et oui, puisqu'ils étaient déjà en Finlande, de les libérer. Alors, ça pourrait être drôle, mais c'est une tragédie dont on peine à voir l'issue. On le voit tous les jours dans nos luttes, les copains se font de plus en plus humiliés, tabassés, arrêtés, placés en rétention, puis expulsés. On entend la galère de la route de la mort et jamais d'apaisement au bout de cette route. Alors c'est quoi ce bordel ? Ces expulsions illégales, ces violences, ces traques meurtrières sont le résultat, la partie en tout cas la plus visible pour nous, d'une politique de fermeture des frontières de plus en plus répressive et dangereuse. L'intensification des conflits armés a favorisé ce que les marchands de mort impérialistes appellent la crise des réfugiés. Et pour répondre à cet afflux, rien d'autre que la répression. En mars 2016, l'accord entre la Turquie et l'Union européenne a définitivement entériné cette politique insupportable. La priorité pour les capitalistes, c'est, sans rire, la sécurité des frontières. Alors, sécurité des frontières qui donc tue chaque année de plus en plus de candidats à l'exil. Parce que la traque meurtrière implique de prendre de plus en plus de risques, ou simplement parce que l'impunité policière, mais aussi les discours racistes, nous font progressivement oublier que tuer des gens, bah, en fait, c'est mal. Donc, sécurité de quoi? De qui? Effectivement, de quoi? Parce qu'il ne s'agit visiblement pas de protéger des vies humaines. Eh bien, alerte, spoiler, c'est la sécurité de la rente capitaliste qui est assurée par ces politiques. En fait, de crise migratoire, c'est bien de crise économique dont il s'agit. En s'amplifiant, cette crise économique voit des politiques de plus en plus violentes quant aux migrations. Les capitalistes, en fait, resserrent la vis pour protéger tout simplement leur rente. Alors, cette fermeture de frontières est en fait toute relative hein, à plusieurs égards. L'Europe, en fait, comme forteresse totale, n'est pas tout à fait à l'ordre du jour, puisque même celles et ceux qui avancent ce genre de propositions démagogiques savent pertinemment que la reproduction du capital a besoin d'une forme de flexibilité aux frontières. Alors, d'une part, pour les êtres humains, la frontière, elle agit davantage comme un obstacle qui permet le tri des migrants, donc sur des critères mentaux comme physiques. Mieux vaut donc être un homme jeune et en bonne santé pour tenter sa chance. Je rappelle à toutes fins utiles que les aspirants réfugiés sont en majorité des aspirantes, des femmes. Et donc, bah, si on n'assure pas la sécurité de ces gens-là, de qui assure-t-on la sécurité? Parce que dans ce même mouvement, de fermeture aux êtres humains, les capitaux, eux, ne font que voyager tranquille, de plus en plus sereinement et avec de moins en moins de restrictions. Alors cette déconnexion entre les capitaux hypermobiles et les travailleurs qui sont de moins en moins libres de circuler à travers le monde permet en réalité de mettre en concurrence les prolétaires entre eux. Elle contraint ces travailleurs à accepter des salaires de plus en plus bas, puisque de toute façon, il n'est pas possible d'aller chercher mieux ailleurs. C'est ce qu'on appelle le dumping social. Donc même si cette ouverture des frontières aux capitaux peut sembler contradictoire de prime abord avec la fermeture de ces mêmes frontières aux êtres humains, il n'en est rien puisqu'elle permet dans le même mouvement d'enrichir les capitalistes en exploitant davantage les prolétaires. D'autre part, elle donne aux capitalistes une main-d'œuvre extrêmement bon marché, puisqu'illégale dans les pays capitalistes dits avancés. C'est en quelque sorte une lumpen armée de réserve du capitalisme, ou plutôt une armée de réserve mondialisée. Le fait de ne pas régulariser assure encore un peu plus de plus-value pour les patrons. Pour les patrons, en tout cas, qui ne peuvent ni délocaliser, ni faire de gros investissements. Je pense particulièrement aux bâtiments et à la restauration. On sait que c'est là où les copains sont souvent acculés à aller vendre leur force de travail pour une misère et sans aucune protection. Donc voilà, cette fermeture des frontières, ces traques qui se font au détriment de plein de vies humaines et de plus en plus de vies humaines, elles assurent la rente des capitalistes aujourd'hui plus que jamais. Et la crise économique dont le copain nous parlait tout à l'heure accentue cette fermeture précisément parce qu'il y a davantage d'enjeux à protéger la rente capitaliste. Réfléchir en ces termes, ça doit nous permettre de dépasser les luttes défensives dans lesquelles on est tous acculés particulièrement en ce moment. Il nous appartient d'agir en tant que classe face à nos ennemis, c'est-à-dire considérer qu'on fait partie tous du même bateau et qu'on est tous exploités au final de la même manière. Et lutter avec nos frères et sœurs contre ces politiques de division et de mort, donc contre les centres de rétention, contre les déportations, c'est aussi lutter contre l'exploitation de tous les prolétaires, ici comme ailleurs. La lutte donc pour de meilleures conditions de vie et de travail doit prendre en compte cette nouvelle division internationale du travail que les capitalistes eux, maîtrisent depuis déjà plusieurs décennies, hein, qu'ils ont très bien appris à utiliser à leur fin. Donc à nous d'être offensifs, il n'y aura jamais d'accueil des exilés dignes sous le capitalisme, à nous donc de l'abolir.
C'est quand qu'on abolit?
Ben j'ai pas eu le temps de finir le papier, ah ouais. Du coup j'ai pas les dates.
Ah mince, réponse à la prochaine émission.
Et par contre, il y avait une petite expulsion, non, en catimini, là,
oui,
en
tout à
France.
Fait, j'en ai parlé au début, c'est des Irakiens. Je l'ai introduit
des
au début.
Afghans.
C'est
des
Afghans. Non, en fait, c'est
des Afghans.
C'est des Irakiens. Non, c'est
des Irakiens. C'est des Irakiens, tout à fait, qui ont été expulsés moins de 24 heures après leur arrestation. Ils étaient dublinés vers la Finlande. Et du coup, ils ont été expulsés au petit matin avant même que leur recours devant le juge administratif ait pu être présenté. Le juge administratif a décidé de les relâcher. Bon, malheureusement, ils étaient déjà en Finlande, donc ils ont envoyé des petites vidéos de
ça se passe
en Finlande pour dire bah ouais, mais c'est cool. Nous.
Ça se passe avant la justice, quoi.
Bah c'est ça, ouais, c'est ce que je disais. Hein. Il y a aussi la gradation, le durcissement des politiques migratoires. Elle s'accompagne aussi de
transformation. Aussi du système.
Oui, puis surtout le fait que les États fassent complètement fi de leurs propres règles sans aucun problème et sans possible retour en arrière. Et ça, on le constate de plus en plus.
C'est comme les gendarmes ou la police qui accompagnent les migrants à la frontière italienne de plus en plus.
Ou alors le tribunal administratif qui ouvre le dimanche pour suivre les 48 heures et expulser les gens.
Il n'y a pas tellement de contradictions puisque l'enjeu n'est pas tellement d'assurer le droit des êtres humains, mais bien celle de, comme je le disais, de protéger la rente capitaliste.
Bon, bah maintenant c'est plus au niveau national, mais
plus drôle.
Ouais, plus drôle. Enfin, c'est Véronique Descac là qui est la numéro 2 de la CFDT.
Ah là, c'est direct beaucoup plus
déjà, ça nous donne envie de rigoler.
C'est en fait, elle va rejoindre la Caisse des dépôts. Alors, en gros. C'était Véronique Descac, c'était la numéro 2 donc, de la CFDT depuis novembre 2012 et elle était dans l'équipe de Laurent Berger. Et en gros, elle va intégrer la CDC qui est un véritable bras financier de l'État. Alors on pourrait dire que c'est un comble pour une syndicaliste, hein, mais cependant, si on regarde la politique menée par cette dernière et la direction de la CFDT, notamment marquée par de nombreuses trahisons à l'égard du mouvement social, cette nouvelle, elle a absolument rien d'étonnant. Descac, en fait, c'est une meuf issue des banques. Elle a fait sa carrière au sein du groupe Banque Populaire. Elle a été directrice de l'agence de Paris. En 99, elle y devient déléguée nationale, négocie le passage aux 35 heures et un vaste plan de fusion d'agences. Et en gros, c'était de quoi gagner de premières lettres de noblesse avant le tournant de 2003. Au sein de la Fédération des banques, elle est alors une des rares à ne pas fustiger le soutien apporté par François Chérec, feu, à la réforme Fillon des retraites. Cela lui vaudra d'être propulsée présidente à la suite du claquage de porte des dirigeants alors en place. Depuis, elle assure à présent la coordination des politiques de protection sociale, y compris l'assurance chômage, et est chargée des politiques de santé, de la famille et de la dépendance. Super ! Un comble pour une syndicaliste, parce que aujourd'hui, quand même, elle va rentrer dans l'État au service des intérêts du patronat. Et. En gros, de quinquennat en quinquennat, on voit que ces politiques antisociales visant à détruire les acquis sociaux du monde du travail, elles s'intensifient et elles intensifient l'exploitation. Alors, c'est quoi la CDC ? La CDC, c'est la Caisse des dépôts et consignations, et c'est une puissante institution financière publique censée exercer des activités d'intérêt général pour le compte de l'État. Autrement dit, elle investit l'argent de l'État, achète des actions et représente un des bras financiers de l'État et de l'impérialisme français, bien sûr. Les missions de la CDC, en gros, elles sont pas très humanitaires. Hein. Elles ont été revues sous l'ère Macron.
Mais et c'est pas un groupe...
La CDC ?
Ouais, j'ai jamais compris. Non. Ah non.
un groupe, tu veux dire un groupe de Lagardère ou de Dassault
De musique, la CDC.
Ah, je retire cette blague. Ah, d'accord, j'avais pas du tout compris la blague là, pour le coup. Je suis un peu lente hein, aussi. Hein. Alors, bref, attends, mais je sais plus où j'en étais.
Désolée, me pendait.
En gros, c'est une institution qui participe à mettre en œuvre le vaste processus de privatisation des actifs publics. Donc, un programme de cession des actifs publics qui est déjà en marche, en route sur les rails. Alors, la CFDT, juste pour rappel, ces dernières années, elle a été la négociatrice d'un certain nombre de dossiers brûlants, type l'assurance chômage, lors duquel elle a joué le jeu du dialogue social, renforçant dès lors le gouvernement, et elle a participé aux concertations de la loi Travail 1 et 2. Au sein de la bataille du rail, actuellement, elle a vanté les mérites des pseudo-négociations avec un gouvernement plus que déterminé à en découdre avec les cheminots, et qui, jusqu'à ce jour, n'a toujours pas reculé sur la revendication du retrait de la réforme. Des cas qu'elle a clairement annoncé les conditions pour le retrait de la CFDT du conflit. Les deux conditions, c'est quoi ? C'est la reprise de la dette ainsi que la négociation au sein de la convention collective. Les attaques qui ont poussé les cheminots à se mettre en grève, à savoir la classe du statut, l'ouverture à la concurrence et le passage en société anonyme, ont complètement été acceptées par cette dernière et la direction de la CFDT. Toujours est-il que, en gros, ceux qui négocient avec le gouvernement sont les mêmes qui finissent dans ces instances ou ces relais. Qu'est-ce que j'ai écrit après ? Ou que ceux qui disent représenter les travailleurs, donc, et se retrouvent aspirés finalement par cette machine dans des postes à haute responsabilité au service du gouvernement et finissent aux côtés de ceux qui organisent l'exploitation et la précarisation des travailleurs. Pas étonnant que la CFDT soit des traîtres.
Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Allemagne. Un simple exemple, IG Metall, qui est le plus gros syndicat allemand, qui est surpuissant, qui est une institution justement à proprement parler. En fait, quand devient une, son ancien directeur a fini au conseil de surveillance d'une grosse multinationale allemande, Volkswagen. Et donc, c'est bien la preuve que là-bas, en Allemagne, c'est l'idéologie ordo-libérale. Donc, c'est un sous-courant du néolibéralisme. J'essaie de vous simplifier.
Mais qui dit que... toi, non ?
En partie, oui. Et disons que, en fait, ce courant idéologique, parler, il dit texto que l'État et les institutions sont là pour maintenir le bon fonctionnement du marché et de la libre concurrence. Donc, comme tu disais tout à l'heure, le bon fonctionnement de la rente capitaliste, et qu'en fait, quand la politique migratoire est répressive pour maintenir cette rente-là en cantonnant à des métiers ultra précaires les migrants, et ben quand une meuf de la CFDT rejoint la CDC, et ben ça participe en fait du même système. Exactement. Et du même ordre.
Ça se reproduit.
Donc vous êtes toujours sur les cours de rattrapage pour votre bac d'économie, hein, parce que c'est bientôt. Restez en ligne, c'est toujours 102.2. Radio Écho, la plus chiante des radios.
Alors, on va changer un peu de sujet. On va parler d'un monsieur qui s'appelle Gaël Quirante et de l'histoire de l'acharnement de la Poste sur ce salarié de la Poste.
Alors, et du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a accepté tout ça.
J'y viens. Ah. Alors, Gaël Quirante, la suite. Gaël Quirante, c'est un membre de la direction du NPA, c'est un délégué syndical de Sud PDT 92, une section syndicale très combative de la Poste. En 14 ans, il y a eu 10 tentatives de licenciement qui ont été donc faites par la Poste pour licencier Gaël Quirante. Alors, on a entendu parler, donc 10 en 14 ans, c'est quand même pas mal. Hein,
c'est clair. Voilà.
On a entendu parler de lui dernièrement, puisque la Poste s'est récemment à nouveau acharnée contre lui pour des faits qui remontent à 2010. La Poste lui reproche des faits de séquestration pour une simple et classique occupation de la direction départementale de la Poste. Ces faits reprochés ont déjà été invalidés plusieurs fois, donc en 2010 par l'inspection du travail, en 2011 par le ministère du travail et par un certain Xavier Bertrand qui est quand même pas non plus pour qui est pas connu pour être un gros gauchiste, hein, et en 2013 par un tribunal administratif. La Poste a nouveau fait appel en 2017, donc récemment, et l'affaire est repassée devant l'inspection du travail, qui non seulement a invalidé le licenciement, mais a mis en avant le caractère discriminatoire et antisyndical de l'acharnement de la Poste. C'est l'inspection du travail. Voilà.
Vraiment.
Et dernièrement, malgré ce rendu de décision, eh bien une certaine Muriel Pénicaud, qui serait donc plus à droite qu'un certain Xavier Bertrand, a annoncé le 20 mars dernier qu'elle autorisait la Poste à licencier Gaël Quirante. Alors Muriel Pénicaud, hein, pour information, on rappelle, c'est la ministre du Travail, c'est l'ex-DRH de Danone et l'ancienne patronne de Business France qui est censée promouvoir le grand capital français à l'étranger. Voilà. Donc merci Muriel. Depuis le 26 mars, merci Mumu. Depuis le 26 mars, Gaël Quirante, eh bien, il est convoqué là à l'hôtel, au commissariat de Neuilly, puisque les facteurs des Hauts-de-Seine se sont mis en grève, une grève dure, comme ils savent si bien le faire, ils se sont mis en lien avec les cheminots, en lien avec les étudiants. Ils ont même participé à aider les étudiants à bloquer des examens en région parisienne, etc. Bon, bref, c'est vraiment des travailleurs et des syndicalistes très combatifs. Et dans ces assemblées générales de la Poste en grève, les flics n'ont eu de cesse de s'immiscer dans le mouvement en intervenant même dans certaines assemblées générales, dans les centres de courrier du département, en intimidant les personnes et essayant de faire évacuer les lieux. Et là, paf, qui est convoqué le 5 juin au Comic-Con de Neuilly? Eh ben, c'est Gaël Quirante, pour des faits qu'il ignore, mais on le sait que c'est lié à la grève. Alors si jamais vous êtes à Paris demain, eh bien, à 9h, 34 rue du Pont, métro, ligne 1, Pont de Neuilly, eh bien, il y a le rassemblement au commissariat de Neuilly pour soutenir Gaël Quirante. Voilà.
Bon, et sinon, au niveau local, on en parle peu dans les médias locaux. Enfin, vraiment, il y a quelques petites choses qui sont sorties. Dans les médias nationaux, n'en parlons même pas. Mais en gros, depuis le 18 mai, Vaux-en-Velin, donc la fameuse ville symbole du malaise des banlieues dans les années 90, connaît une flambée de violence que la maire Hélène Geoffroy, donc maire censée être PS, a expliqué jeudi par une transformation urbaine qui bouscule ce qui est enraciné dans la ville en termes de trafic. Trafic de quoi ? Trafic de voitures, trafic de quoi ? Elle dit aussi que ces violences sont dues aux mutations de la commune. Alors je la cite, « Notre ville est en train de se transformer en profondeur et a retrouvé son attractivité. Il y a toute une énergie qui a des conséquences et peut provoquer des dysfonctionnements urbains, notamment avec les démolitions d'immeubles. » Bah tu m'étonnes Hélène, dans le plan de réhabilitation du bâtiment.
Non, mais tu limites hyper bien. Ouais, mais c'est incroyable. Moi, quand il la connaît bien, on dirait vraiment elle.
Ah ouais, moi je m'y suis cru. J'ai fermé les yeux quelques secondes. J'ai pratiqué pendant des années. Mais en gros, Hélène, dans le plan de réhabilitation du Mas du Taureau, eh ben, elle fout tout le monde à la rue. Les familles qui payaient des logements à un prix super bas, parce que ça faisait des années qu'elles habitaient dans ces logements, sont vues proposer des logements dont le prix avait doublé. Vaux-en-Velin, ça fait des années qu'elle subit des plans ZUS, ZRU, SFU, autant d'acronymes barbares qui montrent que les politiques publiques urbaines le sont tout autant. Les plans sont succédés jusqu'au dernier en date, celui de Fadela Amara, présenté en 2008 à Vaux-en-Velin, Espoir banlieue, une dynamique pour la France. Wouh ! Super, vous direz. On reconstruit du béton sur du béton depuis que Michel Noir.
Tu imites quand même moins bien Fadela Amara quand même.
Tout à fait. Alors Michel Noir, j'y arrive pas du tout par contre. Mais en gros, depuis que Michel Noir alors qu'il était maire de Lyon et de la Courlie, feu nom de la métropole, s'était associé avec le maire communiste de l'époque de Vaux-en-Velin, ils ont mis en place des politiques urbaines, fameuses politiques urbaines qui pourraient, à coup de rénovation, résorber les maux sociaux dont souffrent les populations jetées en marge de la société. 2009, 20% de chômage à Vaux-en-Velin. C'est les derniers chiffres que j'ai. La paupérisation, elle continue. Le pôle emploi, il est saturé. Les collégiens en difficulté scolaire se voient souvent propulsés dans un lycée aux allures modernes où ils redoublent, triplent leur classe de seconde, faute de place dans les lycées professionnels où pourtant ils aimeraient aller, et quittent souvent l'école à l'âge de 16 ans et ils finissent au quartier. Dans les années 90, c'est la mort d'un jeune Vaudet qui a déclenché la plus connue des grandes émeutes urbaines de France. Le supermarché casino de la ville est dévalisé, les voitures brûlent, tout flambe. Bref, la police est prise pour cible, directe. C'est clairement un conflit symbolique contre un état déficient. Et les affrontements, ils exhibent la lucidité criante des jeunes qui ne sont pas dupes du caractère systémique des maux des banlieues. Aujourd'hui, il semblerait que les violences aient commencé à éclater suite à un banal contrôle de police sur un scooter. Or, on le sait, les contrôles de police dans les quartiers sensibles donnent souvent lieu à des morts, car trop souvent, comme le rappellent les morts de Ziad Ebouna, Adama Traoré et puis tous les autres, la police procède à des interpellations violentes. Et je vous rappelle aussi l'affaire Théo, qui s'est fait sodomiser quand même par la police.
Mais en dehors de toute réglementation.
Donc, pas étonnant que les gens y fuient ou se défendent vis-à-vis de la police et qu'ils se défendent, bien entendu. Alors oui, plusieurs événements ont eu lieu dans des quartiers vaudais qui semblent inquiétants. 18 mai, un homme est entré dans l'enceinte de l'école poursuivi par un autre qui menaçait de le tuer, une arme à la main. Un coup de feu a été tiré alors que les élèves étaient dans la cour. Le 30 mai, un jeune d'une vingtaine d'années a été blessé au visage par un coup de feu après une altercation dans le quartier de la Thibaude. Mais ces violences ne surviennent qu'à cause d'un désengagement de l'État vis-à-vis de ces populations. Le 26 mai, il y avait une vidéo qui circulait sur YouTube et qui s'appelle « La police gaze des femmes et des enfants le soir du Ramadan ». Et montrait, en gros, enfin, on voit en gros des policiers et plusieurs fourgonnettes avancer sur les avenues du Mas du Taureau. Et on va écouter le témoignage d'un habitant qui dénonce le déploiement des forces policières.
Là, on est avec le frère, regarde, lacrymogène qu'on se prend dans la tête gratuitement le soir de Ramadan. Donc, un père de famille m'accompagne pour aller voir les CRS et leur dire d'arrêter de gazer les enfants. Ils sont là-bas. Ils avancent.
Ça, c'est leur place, quand
même. Ouais. Donc le CRS arrive.
Ça, c'est pas eux, la
casque ? Si, c'est eux. C'est eux.
Non, le casque.
Non, c'est aux jeunes, c'est les jeunes. Et là, ils vont chasser dans le quartier. Donc quand j'ai donné mon identité, ils m'ont dit de rentrer. Mais on s'est fait gazer gratuitement.
Monsieur, on a le gaz qui arrive juste chez nous. Hein.
Donc les femmes, enfants, ont été gazés gratuitement.
Grâce à vos gamins qui foutent la merde dans le quartier.
C'est quoi, ça aurait été mon gamin. Eh, ça aurait été mon gamin, j'aurais mis une tarte dans la gueule, j'aurais fait rentrer à la maison.
Monsieur, si vous connaissez leur père, vous leur demandez qu'ils rentrent leurs jeunes enfants. Ça s'appelle le respect des autres.
On les connaît les règles, on les connaît, vous inquiétez pas, on les connaît. Mais gazer toute une population pour deux jets de pierre, ça se fait pas. J'étais jeune.
Mets bien ça sur YouTube.
Non, c'est pas sur YouTube. Ce sera pour le préfet. On va donner au préfet. On va lui dire, vous envoyez la police pour gazer la population. Des femmes et des enfants qui se font gazer gratuitement. Pourquoi? Si les jeunes, ils vous tirent des pierres, on s'en fout, nous. Pourquoi vous nous avez tous gazés? Tout le secteur a été gazé, là. Tout ça. Femmes et enfants ont été gazés gratuitement. Voilà comment ça se passe à Vaux-en-Velin. Gratuitement. Malgré que j'ai donné mon identité, ils ont gazé les femmes et les enfants. Monsieur le préfet, madame le maire de Vaux-en-Velin, voilà ce que vous nous envoyez. Un soir de Ramadan, on est censé être dehors, on est censé se reposer d'une dure journée, et on se fait gazer, c'est tout ce qu'on récolte. Pour deux jets de pierre et un scooter brûlé. Harry, il est où le machin que t'as acheté? Voilà ce qu'on reçoit, des grenades. Grenades lacrymogènes. Un soir de Ramadan, tranquille. Au lieu d'aller se coucher, on se prend de lacrymogène, gratuit.
Dans la nuit du 31 mai, il y a 100 personnes qui ont attaqué le commissariat de police municipale en réponse à ces provocations policières envers des femmes et des enfants. Et ça, c'est survenu, encore une fois, un soir de Ramadan. Sur la vidéo, donc, elle est datée du 1er juin, on voit plusieurs jeunes lancer des cocktails Molotov et des feux d'artifice sur une devanture qui semblerait être celle d'un commissariat municipal. Et là, on écoute encore de nouveau la vidéo qui a été faite ce soir-là en live et qui a été montée avec un super... Est-ce qu'on a quelqu'un pour balancer la vidéo? C'est parti.
La police assassine, hommage à Hossein. Ouvrez les yeux, l'État tue ses citoyens. Ouvrez les yeux, l'État tue ses citoyens. Ouvrez les yeux, l'État tue ses citoyens. Africains ou maghrébins, l'État tue ses citoyens. On compte nos morts, notre confiance est en déclin.
Vous pouvez aller voir cette vidéo sur YouTube, hein, elle s'intitule « Attaque du commissariat de Vaux-en-Velin » avec trois points d'exclamation. Ce qu'on entend derrière, en fait, c'est le bruit des cocktails Molotov qui tombent sur le commissariat et puis ils ont mis une super musique par-dessus qui rappelle encore une fois que la police tue, la police assassine. En guise de réponse, en fait, y a une colonne de la compagnie départementale d'intervention qui s'est déployée aux alentours de 2h dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Alors, il n'y a personne qui a été interpellé. Mais c'est surtout la réponse de la maire PS mairesse de la ville, Hélène Geoffroy, qui est inquiétante. Elle a décidé, en gros, d'armer des policiers municipaux, de créer des brigades de nuit et de renforcer la vidéoprotection en réponse à tous ces événements. Il faut dire que depuis que Colomb est devenu le premier flic de France, il arrive souvent que des élus PS prennent des mesures de droite hein, pour essayer de résorber tous ces mots, quoi. Elle a aussi donc décidé de recruter des policiers municipaux et d'étendre leurs horaires jusqu'à 22h, voire minuit, et voire même de déployer une brigade de nuit pour mettre fin, dit-elle, aux rodéos incessants qui nuisent à la tranquillité des riverains. Et elle dit qu'elle aurait ainsi déjà saisi 24 quads et motos en mai. Tu m'étonnes que la colère, elle gronde, Hélène. Partout ailleurs, tu reçois au pire une amende, mais avant en v'là, en gros, tu saisis le scoot des gars, quoi. C'est normal, parce que ça, c'est le rapport colonial qui se
fait peut-être une collection.
Fait peut-être une collection, effectivement. Même si elle avait déjà programmé en gros le renforcement de la vidéosurveillance, elle a décidé qu'il y aurait 80 caméras supplémentaires dont les trois quarts seraient installées d'ici l'été. Coût total de ces mesures, 600 000 euros. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est bah faut aller à Vaux-en-Velin, hein, faut aller voir ce qui se passe, hein, et puis il faut essayer de créer des connexions, non?
En tout cas, moi j'habite à Vaux. Ah. J'habite au mois du taureau.
Et comment ça se passe?
Ah bah, pour expliquer, je ne sais pas comment, les raisons profondes, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi il y a les émeutes, mais vous venez de le dire. Mais en tout cas, moi personnellement aussi, je peux dire de façon indirecte, j'étais gagé aussi, parce que quand ils ont engagé, j'étais devant mon immeuble. Ah ouais. Et le souci aussi, c'est parce que il y a des personnes qui travaillent jusqu'à la nuit tardivement, et quand ils arrivent à leur embomber pour rentrer, il n'y a pas de bus pour rentrer. Et donc,
il
faut faire le sport pour rentrer. Donc, c'est chiant. Ah bah je vais dire ça, mais bon, c'est horrible.
Non mais c'est clair, marcher. Ça fait des années de toute façon que Vaux-en-Velin elle est mise de côté comme ville. On essaie de faire des politiques urbaines, etc. pour dire on va résorber tout ça là. Mais en fait il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est toujours pareil.
En tout cas, c'est il faut faire du sport pour aller à Vaux-en-Velin. C'est parti des erreurs.
Et du coup, bah, pour terminer ce Canu Info, on va un peu parler de l'agenda. Et pour l'introduire, ce week-end, les copains de Briançon appellent à les rejoindre. Donc, je rappelle qu'à Briançon, c'est un peu tendu en ce moment, notamment pour le passage de la frontière, mais aussi parce qu'il y a Génération Identitaire qui rôde massivement.
C'est grosse merde de Génération Identitaire, je crois qu'il faut quand même le souligner.
Je ne voulais pas le dire, mais j'en pense pas moins. Bon.